Ntangom, bonjour.
Bonjour Bruno Bayala.
Vous êtes la seule femme candidate à la présidentielle du 24 mars prochain au Sénégal. Comment envisagez-vous remporter face aux autres candidats?
Effectivement, je suis la seule femme candidate à cette élection présidentielle sur 19 candidats. Mais je pense que ce qui va me permettre de gagner l'élection présidentielle, au-delà de mon genre, c'est d'abord mon profil et surtout mon programme. Mon profil parce qu'il est différent. Effectivement, je suis femme et le Sénégal n'a jamais eu une femme présidente de la République du Sénégal. Donc il y a une bonne adhésion des femmes et beaucoup d'hommes, beaucoup de he for she. Donc cette différence, marquer cette différence sera également important. Ensuite, c'est mon âge, toujours dans mon profil, en tant que jeune de moins de 40 ans, bientôt 40 ans, avec une population sénégalaise constituée de plus de 70% de jeunes. Donc le message de la jeunesse me parvient beaucoup plus facilement et mon message est beaucoup plus accessible. Donc la génération, comme nous on l'appelle la génération Tababacar, est beaucoup plus à l'écoute. Donc la jeunesse est également un facteur très important. Dernier point de mon profil qui marque encore la différence, c'est mon statut, on va dire, en tant que capitaine d'industrie. Et d'autres moins bienveillants diront novice en politique. Mais moi, je dis que c'est une chance et c'est mon atout. Parce que aujourd'hui, la population sénégalaise veut se débarrasser des pratiques politiques politiciennes que nous avons connues et dénoncées et déplorées jusque-là. Donc faire face à une candidate qui n'a pas appris ou qui n'a pas d'expérience en cette façon désuète de faire la politique sénégalaise est considérée comme un atout et j'apporte une nouvelle touche à la classe politique sénégalaise parce que moi je prône une politique autrement, différente de tout ce qu'on a connu jusque-là. Donc le profil comme je le disais. Ensuite c'est mon programme. Je propose un programme impactant réellement les populations qui répond aux besoins primaires des Sénégalais, axé sur trois piliers fondamentaux comme l'état de droit, la réconciliation nationale, la démocratie, c'est un pilier très important. Ensuite, la restructuration de notre économie. En tant que capitaine d'industrie, je viens du secteur privé, donc ce pilier est très important. Et dernier point, c'est le fait de replacer le bien-être des populations au cœur de nos préoccupations. Donc ces atouts, ces points vont me propulser au devant de la scène politique et faire passer le message.
Vous l'avez dit à l'instant, vous êtes aussi chef d'entreprise. Comment cette expérience peut influencer votre approche à la gestion du pays en tant que présidente?
D'abord, je tiens à préciser que la gestion d'une entreprise est différente de la gestion d'un État. Mais quand même, il faut accepter qu'une expérience managériale en entreprise est un atout considérable dans la gestion d'un État. La structuration dans l'entreprise, le management du capital humain, la structuration des process et des procédures, le respect des process, des procédures, des normes, la culture de l'audit, la culture du service. Parce que quand on est en entreprise, on est au service de ses clients. Et l'État doit gagner en tout cas à apprendre à être au service de son peuple. Et surtout la gestion des biens et des ressources. En entreprise, on rencontre un conseil d'administration. Et on sait que l'entreprise s'attend à ce que nous gagnions de l'argent et ses dividendes sont destinés aux actionnaires et aux employés. Donc l'État doit également être enregistré dans cette même dynamique de rendre compte et de redonner des dividendes à son peuple. Et le peuple est considéré ici comme les actionnaires de l'État. Donc c'est un atout, c'est un plus. Et en tant que capitaine d'industrie, il faut savoir user et utiliser son expérience et son parcours professionnel au service de la gestion d'un État.
Et dans une interview, vous avez affirmé que bien que les femmes au Sénégal ont une influence importante en politique et dans d'autres domaines de la vie, elles ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Comment envisagez-vous rendre le processus de candidature présidentielle plus équitable pour les femmes au-delà de cette élection?
D'abord, je pense que ma candidature à cette élection présidentielle est déjà un bel exemple. Il faut noter qu'en 2019, l'élection présidentielle s'est tenue au Sénégal sans la participation ne serait-ce que d'une seule femme. Au moins en 2024, il y en a une et j'espère réellement ouvrir les portes et tracer la voie à toutes ces femmes sénégalaises qui sont ambitieuses, qui en veulent, qui sont travailleuses, qui ont les compétences à oser réclamer et la place du chef de l'État. Les femmes ont occupé quand même tous les postes de responsabilité au Sénégal jusqu'au poste de Premier ministre. Donc la question fondamentale, c'est pas pourquoi une femme, c'est plutôt pourquoi pas une femme. Moi, j'ai toujours prôné pour le leadership féminin. J'ai toujours essayé de donner l'exemple à ces femmes en leur disant que la seule limite est celle qu'on se fixe. Ce n'est pas une question de genre, mais plutôt une question de compétence, de conviction, de détermination, de vision. Et le genre ne devrait pas être une limite à l'ambition. Et que c'est bien possible, c'est fort possible. Aujourd'hui, déjà dans notre mouvement, notre parti ARC, nous avons lancé le Cercle de l'ARC. Le Cercle de l'ARC est un espace d'échange, d'engagement entre les femmes pour renforcer leur leadership féminin et leur dire que l'espace politique est également la leur et qu'elles doivent réellement oser y prendre leur place entièrement, sans se fixer vraiment les limites que la société pourrait de temps à autre nous fixer. Donc c'est une question de conviction, de courage, et j'espère vraiment donner l'exemple. En tant que président de la République également, je m'assurerai quand même que le processus de parrainage, on va dire, soit quand même plus transparent, plus accessible à tous, pas seulement aux femmes. Mais il y en a également beaucoup d'hommes qui ont les compétences, qui ont le mérite, mais parce qu'il y a beaucoup de barrières à la candidature à l'élection présidentielle qui empêchent aujourd'hui de voir la participation de grandes compétences, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes. En tout cas, des procédures plus justes, plus inclusives, ça, ce sera également mis en place en tant que présidente de la République.
L'un de vos projets les plus importants est la création d'une banque nationale des femmes qui va contribuer à l'indépendance économique des femmes et financera leur projet. Pourquoi est-il important, selon vous, de soutenir la création d'une telle banque?
Le lancement d'une banque de financement des femmes, banque de développement et de financement des femmes, n'est qu'une continuité, une réalisation d'un modèle déjà existant ici au Sénégal qui est pratiqué par les femmes. Dans les villages, dans la banlieue, elles ont mis en place un système de calebasse visant à épargner et réutiliser cet argent pour financer leurs projets. Donc pourquoi ne pas transformer ces calebasses en une grande banque qui financerait tous les grands projets des femmes? Parce que le développement économique d'un pays passe nécessairement et obligatoirement par l'autonomisation des femmes. C'est vrai, on met en avant également l'aspect de la formation. On a beaucoup investi dans la formation des femmes qui ont des projets très ambitieux, mais sans le financement adéquat, ces projets ne verront jamais le jour. Donc il faut une discrimination positive dans ces schémas-là pour booster et accompagner toutes ces femmes ambitieuses qui ont des projets qui seront réellement utiles pour le Sénégal et accompagner le développement économique du Sénégal. Nous, déjà, notre ARC, au sein de ARC, en 8 mois, 9 mois, on a formé déjà des milliers de femmes. Donc c'est cette ambition que nous souhaitons porter à la hauteur de l'État, parce qu'on a quand même eu à faire des formations dans les transformations fruits et légumes, les transformations céréalières, etc., de la saponification, les micro-industries, etc. Beaucoup de formations ont été faites pour les femmes dans le monde rural, dans le milieu rural, dans la banlieue. Et il faut impérativement continuer ce processus en mettant en place une grande banque de développement et de financement des femmes.
Quelles actions concrètes comptez-vous entreprendre pour la réconciliation nationale dès votre élection à la présidence?
D'abord, nous allons commencer par créer le Haut Conseil de la Concertation et de la Concorde nationale afin d'encourager la cohésion sociale, la compréhension mutuelle et la participation citoyenne dans la prise de décision. Nous mettrons en place une commission vérité et réconciliation et je pense aujourd'hui que ça s'impose à nous, à l'image de pays qui ont quand même vu le bout du tunnel après avoir traversé des périodes sombres dans leur histoire politique comme l'Afrique du Sud. Donc il est impératif de rétablir le dialogue et d'instaurer un dialogue sincère au sortir duquel on espère vraiment avoir un pardon sincère de la part des populations sénégalaises. Il faut rétablir la vérité, il faut rétablir la justice avant de pouvoir espérer un pardon. Et c'est sur cette base que nous allons reconduire l'état de droit, rétablir notre image en tant que pays démocratique du Sénégal, remettre aux institutions leurs lettres de noblesse, reconstruire la relation de confiance entre le peuple sénégalais et les différentes institutions, parce que le président de la République sortant nous parle d'une crise institutionnelle. Donc il y a vraiment une rupture entre les services de l'État, les institutions, les pouvoirs politiques, l'administration globalement et le peuple sénégalais. Un peuple qui ne veut que se libérer et se retrouver réellement au centre des préoccupations, comme ça se fait partout, surtout en Afrique. Nous sommes des panafricains et aujourd'hui nous sommes convaincus que la libération d'un peuple passe d'abord par la conscientisation de sa jeunesse, par le rétablissement de la vérité et de la justice. Donc, comme nous le voyons ailleurs, le peuple sénégalais réclame également le respect de ses droits et le rétablissement de la justice. Et ce sera fait au Sénégal également à travers la mise en place de du Haut Conseil de la Concertation et de la Concorde nationale.
Et comment envisagez-vous renouveler la politique sénégalaise et encourager la participation des jeunes et des femmes dans le processus politique ?
Mon profil naturellement envoie à la retraite tous ces vieux politiciens que nous avons l'habitude de voir depuis l'époque de Senghor. C'est quand même choquant qu'il y ait des profils qui, jusqu'à aujourd'hui, désirent accéder à la magistrature suprême mais qui ont fait 2-3 gouvernements. Je pense que notre programme propose la relève. Il faut relever la classe politique que nous avons connue jusqu'ici. Il faut engager de nouveaux visages pour de nouveaux usages. Il faut impliquer la jeunesse sénégalaise. Il faut impliquer le peuple sénégalais. La politique sénégalaise n'est pas la chasse gardée d'une poignée de main de politiciens qui nous ont quand même beaucoup déçus dans le passé. Donc c'est l'implication de ces nouveaux profils. C'est la politique autrement, c'est la relève, c'est la rupture avec la politique politicienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ma candidature offre ce modèle, cet exemple aux femmes, à la jeunesse, pour dire que la politique est l'affaire de tous. Donc, et dans l'union, dans la vérité, dans le seul intérêt du peuple. Donc il faut remettre le peuple sénégalais au cœur des préoccupations et je n'insisterai jamais dessus. Ce n'est pas la chasse gardée d'une poignée de main de population. La politique est l'affaire de tous et j'ai décidé vraiment d'ouvrir une grande maison de retraite pour y envoyer tous ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir et laisser la jeunesse ou le peuple sénégalais au devant de la scène. Parce que nous avons envie de construire ensemble et c'est possible.
Et pour terminer, pourquoi est-il essentiel selon vous de renforcer le secteur privé en tant que pont entre l'État et la population ?
En tant que capitaine d'industrie et plutôt quelqu'un qui vient du secteur privé, je suis très bien placée pour connaître le rôle du secteur privé en tant qu'auxiliaire de développement auprès d'un État. Un État qui se fixe comme objectif et comme ambition de créer des emplois est totalement dérouté. La création d'emplois, c'est le rôle du secteur privé. Et le rôle de l'État, c'est de renforcer le secteur privé, d'assumer, de créer des champions nationaux, mais en retour, de leur exiger la création de milliers et de milliers d'emplois. C'est un réel partenariat qu'il faut entre le secteur privé et l'État. Aujourd'hui, un État ne peut rien construire dans un pays sans son secteur privé. Mais il faut l'assumer. Il faut assumer d'avoir un secteur privé national. Il faut assumer de protéger ses champions nationaux. Nous sommes des Sénégalais. Moi, je dis le Sénégal d'abord. Comme on le dit partout ailleurs, les États-Unis ne se gênent pas pour dire « America first, I want to make America great again ». Moi, je dis le Sénégal d'abord, avec les Sénégalais d'abord. Et pour ça, il faut assumer son secteur privé national. Il faut assumer la préservation de nos ressources naturelles. Il faut assumer que nous devons être aujourd'hui les premiers bénéficiaires des ressources naturelles de notre État. Et c'est la position que nous espérons, que nous devons avoir de la part de notre État en s'appuyant sur notre secteur privé, un secteur privé national fort.
Antangomo, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Omega.
Merci beaucoup à vous, Bruno Bayala, et à Radio Omega, et à bientôt.